grâce au tipeur de la revue de presse JV, j'ai pu débloquer donc un petit budget magazine, hein, un petit budget issu directement des tips, hein, dont m'honore hein, les tipeurs. Vous savez que vous pouvez améliorer mes conditions de travail hein, sur la revue de presse JV, j'ai des conditions un petit peu particulières, j'explique tout sur le Tipeee de l'émission, le Tipeee qui est en lien dans la description hein, de cet épisode. Et donc j'ai décidé, pour ce premier magazine chroniqué, passé au peigne fin, je dirais, dans la revue de presse JV, d'attaquer avec un petit nouveau, un tout nouveau qui débarque dans l'arène, qui s'appelle Jeux Vidéo Plus. Alors je sais pas si vous avez vu ça. Donc déjà, le premier argument de ce magazine, c'est son prix. Il coûte 2€ seulement. C'est un mensuel et il convient quand même de rappeler qu'il fait partie du même groupe hein, qui édite Video Gamer Rétro, PC Gamer, etc. Le groupe s'appelle Nickel Media. Alors, Jeux Vidéo Plus, Kezako, donc c'est un mensuel, comme je vous l'ai dit, qui ressemble énormément au niveau de la qualité du papier et de la maquette, on y reviendra tout à l'heure, hein. Ça ressemble énormément à Jeux Vidéo Magazine, vraiment. Ou à Auto Plus. Voilà, moi ça me rappelle les Auto Plus que j'achetais quand j'étais gamin, parce que j'ai eu une période bagnole quand j'étais gamin, n'est-ce pas? Ça rappelle vraiment ça. Avant de rentrer vraiment dans le détail, j'aimerais vous dire un petit bout de l'édito, signé Laurent Dehep. Alors il nous dit: cher lecteur, bienvenue dans Jeux Vidéo Plus, votre nouveau mensuel de jeux vidéo. Nouveau, notre magazine l'est par son ambition, résumé dans son sous-titre. Vous proposez plus d'infos pour moins d'euros. Moins d'euros, c'est un magazine à seulement 2€, le prix le plus bas du marché. Et de loin, nous dit Laurent. Il poursuit en nous indiquant que notre portefeuille appréciera, que plus d'infos, ce sont des actualités denses et riches, des tests rigoureux, des reportages fouillés, des guides détaillés, des conseils pratiques et utiles. Tout cela écrit par des journalistes chevronnés et reconnus au sein d'un groupe réputé pour la qualité de ses magazines. Parce que magazine à 2€ ne signifie pas magazine à 2 balles. Humour quand tu nous tiens. Alors, quand on poursuit le magazine, globalement, les choses que j'ai trouvées sympathiques, un petit dossier sur les lootbox. Je ne vais pas vous expliquer ce que sont les lootbox, on en a maintes et maintes fois parlé. Ces petites pochettes surprises à acheter dans certains jeux vidéo, et notamment dans le tristement polémique Battlefront 2. Donc, ils reviennent dessus, c'est assez didactique, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt malin, il n'y a pas de problème. Le magazine, donc après quelques pages de news, beaucoup de news hein, sont compactées sur quelques pages. Le magazine revient sur le phénomène Battle Royale. Vous savez, cette mode du Battle Royale qui a lancé PUBG, PUBG, PlayerUnknown's Battleground. Il y a un dossier sur les jeux qui vont marquer 2018. On a donc des critiques, hein. Mario, Assassin's Creed Origin, etc. Tous les gros jeux y passent. Donc je rappelle que le numéro est daté de janvier. Fatalement, hein, avec la presse papier, il y a toujours un peu de retard, mais enfin ça, voilà, c'est pas un scoop. Il y a une sélection gaming ultime. Voilà, où par genre, on nous donne vraiment les titres à posséder absolument. Donc, chez les FPS, le gagnant, c'est Wolfenstein 2 The New Colossus. Dans les jeux d'aventure, eh ben, c'est Zelda Breath of the Wild, hein, sans surprise. Dans la plateforme, c'est Mario Odyssey, sans surprise non plus. Énormément de genres sont passés comme ça en revue. Ah, chez les RPG, c'est Nier Automata, hein, donc voilà, je suis très content. Voilà, et toujours avec des explications, des arguments, pour en tout cas le trio, enfin même les 5 premiers voilà, qui ont été sélectionnés. Il y a du test de matos, on a aussi un comparatif des stores en ligne, Steam, le PSN, le store Xbox, etc. Un comparatif de casques VR, une rubrique rétro sur la Super Nintendo, voilà, une petite rubrique geek. Bon, écoutez, globalement, c'est quand même assez fourni. Hein, combien ça fait de pages, ce bazar? Oui, 80 pages. Globalement, on sent que le magazine n'a pas été bâclé. Il y a le déplume que j'aime bien dedans, notamment Kevin Sicurel, alors qui se faisait appeler Moguri sur No Life. Il y a Christophe Collet aussi, qui est une bonne plume, même si je suis pas souvent d'accord avec lui. On a Hung Nguyen aussi, que j'aime beaucoup. Les points positifs de ce jeu vidéo plus, c'est donc les plumes, comme je viens vous le dire. C'est bien écrit, il y a des rédacteurs qui ont de la bouteille, qui savent de quoi ils parlent, et il faut reconnaître quand même que pour seulement 2€, il y a quand même pas mal de choses à lire. Alors, c'est moins dense qu'un jeu vidéo mag, mais il y a quand même de la lecture. Je trouve que pour 2€, on ne se moque pas de nous. Maintenant, les points qui fâchent. La maquette. La maquette d'un autre âge. ça, c'est vraiment... c'est très dur. Comme je disais, ça fait penser à AutoPlus, ça fait penser aussi à ce que fait Jeux Vidéo Mag. Côté Jeux Vidéo Mag, ça pose pas de soucis, vu qu'on est habitué, hein, même si elle s'est modernisée quand même au fil du temps, ça fait partie de l'identité du magazine. Ce qui est dommage, c'est que pour un magazine qui se lance, un nouveau, reprend exactement... Mais vraiment, hein, c'est... je dirais pas que c'est du copier-coller, bien évidemment. Le Jeux Vidéo Plus a sa maquette, mais enfin, on reste vraiment dans la même famille de maquettes. Moi, c'est vraiment pas le genre de maquette que j'attends d'un nouveau magazine qui sort, et j'ai pu voir, d'après ma petite enquête sur les réseaux sociaux, que ça pouvait être rédhibitoire pour certains lecteurs, ce qui est dommage, puisque le contenu est bon. Je pense qu'il y a des impératifs économiques et des impératifs de placement sur le marché qui ont mené vers cette maquette. Moi, personnellement, c'est un petit peu gâché mon plaisir de lecture, d'autant que sur certaines pages, la police est extrêmement petite. Alors ça, bien sûr, ça peut être une qualité, puisque... il y a beaucoup de textes, donc ça c'est très bien, c'est très très bien. Mais je parle vraiment au niveau de la maquette, notamment la rubrique rétro, où vraiment la couleur de la police et du fond de la page au niveau de la maquette, c'est un peu pénible à lire. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et le fait qu'il ressemble trop à Jeux Vidéo Mag, je trouve le dessert plutôt qu'autre chose, ce Jeux Vidéo Plus, puisque Jeux Vidéo Mag coûte actuellement 3,95€. Donc, il n'y a même pas 2€ en plus à rajouter. Et Jeux Vidéo Mag est plus dense. Il y a plus de pages, il y a plus de choses. Mais vous me contredirez, hein. Voilà, si je me plante complètement. Mais si je ne fais erreur, quand même, Jeux Vidéo Mag est quand même plus épais. Quand même plus de choses à lire. Et du coup, le fait que Jeux Vidéo Plus ressort exactement, enfin, une maquette quasiment similaire, ça met d'autant plus en exergue le fait qu'il soit plus fin. Alors, il coûte 2€, certes. Enfin bon, pour 1,95€ de plus, on a quand même plus de pages. Donc puisqu'il faut quand même conclure au bout d'un moment, hein, on va pas faire 3 heures non plus là-dessus, je dirais que le magazine est à essayer, que le fond est de qualité, mais la forme en rebutera plus d'un, et cette maquette est vraiment, vraiment pas attirante. Je ne voudrais pas chroniquer les magazines pour ce podcast, je ne l'aurais jamais acheté. Et c'est dommage, puisque j'ai eu la bonne surprise, car je ne le savais pas... Je pense que la communication autour du magazine est vraiment confidentielle, puisque je ne savais pas que j'allais retrouver des plumes que j'aimais bien dans ce magazine. Donc je l'aurais même jamais su. Alors peut-être au bout de X numéros sur Twitter, mais ça a été un hasard pour moi de découvrir ces plumes-là dans ce magazine. Le défaut qu'il peut y avoir aussi, et ça on y reviendra plus tard dans la semaine, ou la semaine prochaine, je ne sais pas, c'est que comme c'est la même boîte qui édite Vidéo Gamer, on retrouve fatalement les mêmes plumes, les mêmes... dossier avec peut-être des angles différents, plus ou moins longs, plus ou moins fournis, s'adaptant à la ligne éditoriale de tel et tel magazine, mais il peut y avoir aussi un effet redite. Et donc c'est dommage aussi qu'il y ait un manque d'audace, je trouve, dans Jeux Vidéo Plus, sans trop perturber voilà, les lecteurs. C'est dommage qu'on retrouve vraiment l'actualité, les dossiers, les tests, les petites rubriques, le guide pratique, blablabla, etc. On est quand même vraiment dans des charentaises de papy, vraiment. Le format aurait mérité un petit peu plus d'audace au milieu de ce classicisme que certains attendent, et qui est une condition sine qua non, je n'en doute pas, pour que certains achètent un magazine. Ça manque d'interview aussi, on n'a pas du tout d'ailleurs d'interview, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça peut avoir ce côté doublon pour ceux qui aiment bien Vidéo Gamer, de ne pas acheter Jeux Vidéo Plus. Alors, on va me dire que ça ne s'adresse pas du tout au même public, que Vidéo Gamer est plus pour les core gamers et que Jeux Vidéo Plus est plus grand public, dirons-nous. Mais bon, voilà, fallait quand même le relever. À vous de vous faire votre idée. Le contenu, si vous voulez quelque chose de light, mais quand même de précis, c'est-à-dire de personnes qui savent ce dont ils parlent, avec des petites touches quand même gamer dans les articles, avec une maquette qui est vraiment pas belle, voilà, ça faut vraiment le reconnaître, et ben vous pouvez vous laisser tenter, en tout cas, si certains d'entre vous se sont déjà laissés tenter par Jeux Vidéo Plus, je vais l'appeler Jeux Vidéo Game Plus, hein, je ne sais pas depuis le début, mais bon, et ben n'hésitez pas sur Twitter, sur Facebook, par mail même, à me faire part de vos critiques, et pourquoi pas, certaines seront citées dans l'émission. Et voilà, c'était une grande première, hein, la première critique d'un magazine papier dans la revue de presse JV, et donc ce n'est pas terminé, et le prochain à passer sur le grill sera le dernier The Game, donc ça, ce sera peut-être demain ou dans quelques jours. C'est au tour de The Game de passer sur le grill, The Game le mag, qui, pour son numéro couvrant février-mars, et oui, puisque c'est en kiosque tous les deux mois, donc son numéro de février-mars 2018, hein, nous propose une belle couverture Dragon Ball FighterZ. Et avant toute chose, donc, j'aimerais dire que j'aime beaucoup ce magazine, ça depuis le numéro 1. Pourquoi ? Parce que, déjà, il y a des plumes dont j'apprécie fortement le travail, Vincent Holmes, hein, Raphaël Lucas, Philippe Canlas, Régis Montera, dont on a parlé en début d'émission, hein, qui sévit également sur jeuxvideo.com et sur beaucoup de sites et de parutions. Enfin, il est à peu près partout, ce Régis. Les dossiers sont toujours bien fichus, globalement, et l'angle de certains papiers est assez bien trouvé, est assez intéressant. Et il y a toujours une couverture originale. Là, pour ce numéro-là, elle a été signée Rob Duanas. Très belle couverture Dragon Ball. Donc ça, c'est vraiment les avantages de ce magazine. Qu'est-ce qu'on peut voir en une ? Donc de ce numéro 22, hein, on nous promet, donc on nous annonce même un gros dossier sur les 30 ans de jeux Dragon Ball, un dossier rétro sur Resident Evil 2, les 18 jeux indés les plus attendus en 2018, et Mass Effect, la chronique d'un naufrage spatial, tout un programme. Concernant le sommaire un peu plus détaillé, voici ce que vous allez trouver concrètement. Comme toujours, hein, y a une grosse partie décryptage, hein, qui remplace un petit peu la section news ou previews des magazines, dirons-nous, plus classiques. Dans cette section décryptage, vous pouvez retrouver des papiers sur The Last of Us Part 2, sur Ghost of Tsushima, Spider-Man, le Decidia Final Fantasy NT, sur Death Stranding, sur PlayerUnknown's Battlegrounds, et oui, encore, lui et toujours, sur le PlayStation Now et le Xbox Game Pass, sur le Shadow, la machine, hein, qui vous fait jouer en streaming à des jeux PC, sur au jeu Enterre-moi mon amour, sur Soul Calibur 6 et sur Far Cry 5. Dans les dossiers, on a les visages oubliés de Ken et Raziel. Pour les fans de Soul River, donc il y a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Sur les 10 ans de Mass Effect, hein, on a une galerie spéciale Dragon Ball où divers artistes, hein, revisitent Dragon Ball. Et au niveau des critiques, vous avez... Et ça, j'aime bien, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que j'aime bien... Dans The Game, qu'on parle de critiques et pas de tests, puisque je le rappelle, les jeux vidéo sont des œuvres et non des machines à laver, et donc j'aime bien qu'on utilise le terme critique. Donc, Xenoblade Chronicles 2, Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, Ultra Lune, Ultra Soleil, le dernier Call of, le remaster d'Elle est Noire, le Skyrim sur Switch, le DLC Hold of Prodige de Breath of the Wild, le Doom sur Switch également. Après, le magazine vous propose de briller en société avec des quiz, des petits trivia et un petit papier sur le Game as a Service. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce numéro? J'ai bien aimé le papier de Vincent Holmes sur le bilan de la Xbox One X. Et donc, il nous fait un constat, hein, sur l'accueil de cette machine. Il nous dit notamment que le disque dur de 1 teraoctet paraît bien léger. Donc ça, c'est un défaut qui revient très souvent, hein, quand on parle de la One X. Avec à peine une dizaine de jeux et leur patch de mise à jour HUD, la saturation n'était déjà pas loin. Reste que le jeu en vaut la chandelle, nous dit Vincent. Pour la plupart des sorties récentes, la Xbox One X fait au pire aussi bien, mais souvent mieux, que la PlayStation 4 Pro. Au-delà de sa puissance, c'est l'implication des développeurs qui est rassurante, préférée à un nivellement par le bas qui aurait été aussi pragmatique que décevant. Les titres estampillés Microsoft restent les plus impressionnants, normal, hein. Forza 7, Gears of War 4 en tête, mais le dernier Assassin's Creed, le dernier Call of Destiny 2 ou Battlefront 2 flatteront les possesseurs d'écrans 4K et assureront une fluidité de jeu de tous les instants. Mais le problème, c'est, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette One X? Et là, Vincent nous dit que si elle a su parfaitement négocier son lancement, car le lancement, hein, a été comme un succès, la One X se trouve face à de nombreux challenges à venir. La fenêtre de Noël passée, il faudra à nouveau lutter contre les prochaines exclusivités de Sony. Face à God of War, Days Gone, Spider-Man et bien sûr The Last of Us Part 2, Microsoft ne pourra se contenter de coups tels que PUBG ou de licences telles que Sea of Thieves ou Crackdown 3. Le prochain E3 devrait donc dévoiler quelques gros cylindrés à même de profiter pleinement du surcroît de puissance Halo 6 en tête. Moi, je pense que ce sera un petit peu dur, puisque les exclus, c'est la PlayStation 4 et la Switch. Donc face à la Switch et la PS4 qui ont vraiment des jeux exclusifs, je pense, beaucoup plus forts, en tout cas en dehors du marché américain, je ne sais pas ce qui va se passer pour la One X, mais je pense que ce côté entre deux, à moyen terme, ne va pas lui être profitable, mais je peux complètement me planter. Autre chose de très intéressant à lire donc dans ce nouveau The Game, c'est le dossier Dragon Ball Fighters, donc signé, hein, par plusieurs plumes, avec des infos détaillées, hein, en général sur le jeu en lui-même, un retour sur l'historique du studio Arc System Works, hein, sur la naissance et l'évolution de Dragon Ball en tant que licence, et une petite rétrospective des jeux. Bon, rien de bien nouveau si l'on est fan, hein. Vous apprendrez pas vraiment des choses énormes si vous êtes déjà un fan hardcore de Dragon Ball, mais c'est toujours sympa à lire pour les profanes et même pour les fans. C'est toujours agréable de voir ce petit bilan couché sur papier et surtout avec une belle maquette, mais enfin ça on y reviendra un petit peu plus tard. Le dossier rétro de Régis donc sur Resident Evil, c'est toujours très documenté, il s'est basé sur des sources qui sont assez solides. En résulte donc un dossier très intéressant sur la création de Resident Evil 2. Vous avez aussi un dossier assez détaillé sur Monster Hunter World signé Philippe Canlas. Alors là, si vous attendez Monster Hunter World, le dossier est quand même assez béton et hyper détaillé. Dans les 18 jeux indés à découvrir en 2018, j'ai retenu UFO 50 car je l'attends, comment vous dire, comme un déglingo. Il n'y a pas d'autre mot. Le dossier nous rappelle que les créateurs de titres tels que Spelunky, Donwell ou encore Times Barons, donc Derek Yu, Eric Shirk, John Perry, Paul Eubanks et Ojiri Fumoto s'associent. C'est déjà une Dream Team, hein. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez ces créateurs ou leurs jeux, mais bon, pour moi, c'est une Dream Team. Donc, s'associent pour proposer une compilation de 50 jeux de genres différents, shoot, action, combat, plateforme, puzzle, etc. Tous développés dans un esprit rétro. Moi, à chaque fois que je vois des images ou des vidéos de ce projet, je frétille comme une petite truite, hein, comme je le dis bien souvent. Et ouais, j'ai vraiment hâte. En tout cas, cette sélection de 18 jeux indés est assez sympa et permet de remettre en lumière certains jeux indés qui, pour certains, ne sont pas forcément très mis en lumière sur les grosses parutions ou les gros sites. Vous avez aussi donc un 10 ans de Mass Effect signé par Raphaël Lucas. Alors Raphaël Lucas, c'est vraiment un gars sûr, c'est une plume que j'apprécie particulièrement. Et à tel point que, n'étant pas très fan de Mass Effect, puisque je n'ai jamais trop eu le temps en fait, de m'y plonger, hein, tout simplement pour ceci. J'espère un jour pouvoir le faire, mais enfin, voilà, vous le savez, les journées ne font que 24 heures. C'est toujours très intéressant à lire et très documenté. Donc ça, c'est à lire aussi d'urgence. Parmi les critiques, je vais vous en citer une seule, puisque sinon, bah, comme d'habitude, hein, l'émission ferait 3 heures. C'est sur justement, en restant avec Raphaël Lucas, sur Xenoblade Chronicles 2, qui a des critiques hein, un petit peu mitigées. Certains adorent, d'autres relèvent certains points un petit peu spéciaux, que ce soit en termes de gameplay, de direction artistique ou de scénario. On l'a déjà évoqué hein, pas mal de fois dans l'émission. Mais Raphaël Lucas, lui, a aimé en collant un 8 sur 10. Donc, j'aimerais juste vous lire sa conclusion. Jeté dans le grand bain, on est très rapidement submergé par un nombre de facteurs à gérer entre le placement de notre pilote, les lames, les bonus, les rôles et classes. Et ce, d'autant que rien n'est expliqué ou si peu. C'est donc au joueur de prendre le jeu à bras-le-corps, de l'embrasser pour comprendre ses mécaniques imbriquées. Une philosophie déjà présente dans les précédents volets qui n'est pas loin de celle des jeux de combat. Ceux-là même qui, exigeant, demande d'expérimenter, de tester chaque possibilité, chaque effet sur le terrain. Et dans Xenoblade Chronicles 2, le monde et ses îles se fait champ d'expérimentation. C'est peut-être là que brille le plus Xenoblade Chronicles 2. Dans cette confiance presque aveugle dans le joueur, dans sa volonté de découvrir, de tenter des expériences, dans son désir de jeu, dans son désir de jouer, tout simplement. C'est beau, j'en verse presque une larmichette, même si tout ce que j'ai lu, hein, que ce soit dans les critiques positives ou négatives de Xenoblade Chronicles 2, me fait dire que c'est un jeu que j'ai de moins en moins envie de faire, sachant que je suis totalement amoureux de ma Switch, hein, à tel point hein, qu'elle est non seulement une de mes consoles préférées, mais je pense que depuis la Super Nintendo, jamais une console, donc Nintendo, ne m'avait autant enthousiasmé. À la différence que là, il faut vraiment l'avoir chez soi pour s'en rendre compte. Revenons à nos moutons, puisque vous savez, je digresse, hein, ça c'est un de mes défauts. Là, vous vous dites, alors là, The Game, c'est bon, il adore, il est totalement vendu. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, et ce depuis bien avant la création de la revue de presse JV, savent que j'ai toujours aimé The Game. C'est pas une raison, voilà, pour pas émettre non plus des critiques, mais enfin, dans les plus quand même, j'aimerais dire que The Game est l'un des meilleurs Mac jeux vidéo du marché. Ça, je ne reviendrai pas dessus puisque la qualité de numéro en numéro est toujours là. La maquette, pour moi, est un de ses points forts. La maquette est vraiment, vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Je pense qu'il n'y a rien à changer. Elle est très bien comme ça. Là, on est aux antipodes hein, des magazines très standardisés, très grand public. La maquette est vraiment très agréable. Et surtout, vous avez des sujets variés. Il y a beaucoup de choses à lire. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile, bien sûr, puisque le magazine paraît tous les deux mois. Mais voilà, le pied, ce serait d'avoir ça tous les mois. Je sais que c'est pas possible. Voilà. Et là, ce sera dans les moins, dans les petites déceptions qui n'en sont pas forcément, parce que c'est pas imputable au magazine en lui-même. Mais c'est vrai qu'il n'est pas mensuel. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque je pense qu'il serait mensuel. Il aurait sa chance, mais ça, je dis ça en n'ayant pas du tout les yeux hein, sur les chiffres, sur la partie économique de la chose. Donc, voilà, là, c'est d'un œil un petit peu bisounours que je vous dis ça. Et donc, fatalement, il y a un effet redite, puisqu'il est, il paraît tous les deux mois. Donc, il y a fatalement des choses que vous avez déjà lues, il y a du retard sur certains sujets. Ça, c'est propre à la presse papier, et ça se ressent peut-être encore un peu plus avec The Game. Ça manque aussi, je pense, d'une rubrique originale ou deux en plus. Alors, il y en a, mais du fait de sa particularité, je pense que ce serait quelque chose à creuser, de mettre une petite rubrique ou deux un peu plus fofolle, quoi, un peu plus originale. Et une critique, et ça, je me la fais depuis quelques numéros, c'est que la section rétro, qui est, une fois encore, hein, très bien écrite, alors vous pouvez y retrouver des gars sûrs, hein, du Raphaël Lucas, notamment là, qui fait un gros papier sur la Master System, mais justement, c'est très bien écrit, mais ce sont des sujets vraiment vus, revus et re-revus, et je pense que le lectorat à qui se destine The Game, qui veut quelque chose d'un petit peu plus épais, d'un petit peu plus travaillé, connaît déjà ses sujets par cœur. Et la rubrique rétro, c'est l'occasion aussi peut-être de faire des angles un peu plus originaux, de prendre des thématiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Revenir peut-être sur des mécaniques de gameplay, sur l'évolution peut-être d'un genre, d'un créateur. Et encore là, quand je vous dis ça, c'est pas d'une originalité folle, mais il y a moyen vraiment de creuser, de faire des trucs un petit peu plus fun. Voilà, ça ce serait pour mes critiques. Globalement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez tenter, sachant que vous avez 116 pages, hein, donc pour 5,50€, sachant que c'est tous les deux mois, franchement, ça va. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur The Game, et je pense qu'on peut terminer tranquillement cette émission.